Alors, j'aurais aimé vous lire un mail que j'ai reçu il y a 2-3 jours de quelqu'un que vous connaissez, qui est intervenu déjà dans les forums. Il s'agit du père Édouard-Marie Gallet, et dont c'est aussi l'anniversaire aujourd'hui. Il me le rappelle dans ce mail, qui est à propos du 12 septembre, comme cela a été évoqué tout à l'heure. Je vous lis simplement ce qu'il a dit, ce qu'il écrit dans ce mail. Concrètement, à ce qu'on croit, la bataille de Lépante n'a pas été déterminante du tout. Un siècle après, en 1683, une armée de 200 000 hommes se met en marche sous les ordres du sultan pour aller prendre Vienne, puis Rome. Celui qui a joué un rôle majeur, vrai envoyé de Dieu dans le salut de Vienne et de l'Europe, c'est le bienheureux Marc d'Aviano, capucin, thaumaturge. Jean-Paul II l'aimait beaucoup. La bataille de Vienne commença le 11 septembre. Ça nous rappelle une autre date plus récente aussi, 1683. Sans que le front ne bouge. Mais c'est dans la journée du 12 qui fut, elle, décisive, alors que les Turcs se voyaient entrer dans Vienne et étaient à deux doigts d'y arriver, la charge de tous les cavaliers, 10 000, dit-on, menés par le roi de Pologne, Jean Sobieski, renversa la situation au début de l'après-midi et ce fut la débandade dans le camp turc. Ensuite, la Turquie n'a plus jamais fait que reculer. Le 12 septembre est la fête de la délivrance de l'Europe de la menace islamique, immortalisée par la fête du Saint-Nom de Marie, décidée par le pape en commémoration de cette victoire, comme pour le 7 octobre par rapport à Lépante. Ce serait dommage de ne pas évoquer cet événement. Il écrit parce qu'il sait qu'il y a aujourd'hui cette rencontre qui a changé le cours de l'histoire. Dieu est intervenu à la prière du peuple viennois que le bienheureux Marc d'Aviano donc a suscité, qui avait demandé son aide de l'empereur à la dernière des prostituées. Et il avait préparé à l'avance, depuis des années, Marc d'Aviano à cette mission. Voilà ce préambule que je voulais donner. J'ai trouvé intéressant que notre rencontre se situe en cette fête du Saint-Nom de Marie, qui est attachée donc à cet événement historique. Ce n'est pas pour cela qu'on célèbre le Saint-Nom de Marie, d'abord, mais ceci montre l'intervention, la proximité de la Bienheureuse Vierge Marie, comme cela a été le cas aussi par rapport à Lépante, dans les événements que nous vivons et qu'il nous faut savoir nous tourner vers elle pour implorer sa médiation maternelle. Alors, je rejoins maintenant le sujet qui m'a été donné. Quel projet d'évangélisation pour l'Église en monde musulman? Alors, je pourrais m'arrêter là parce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de projet élaboré venant de l'Église catholique en ce qui concerne le monde musulman, sinon un effort de dialogue interreligieux globalement sans résultat marquant après 50 ans. Je me souviens encore, en 1976, le dialogue suscité par le colonel Kadhafi à Tripoli de Libye, qui s'était terminé en queue de poisson et de manière assez lamentable, et dont le père Bormans, qui a été mon professeur à Rome, a été complètement déconfit. Il y a malgré tout des prises de position à tel ou tel moment historique face à ce monde déroutant de l'islam, et aujourd'hui des contributions universitaires qui me semblent essentielles, souvent individuelles, mais il y a de plus en plus de collaborations et de travail collectif aussi et pluridisciplinaire, qui ouvrent des perspectives qui ne semblent pas émouvoir outre mesure l'institution ecclésiale. Doucement, cependant, il y a un travail qui s'opère. Il y a moins d'agressivité aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a encore quelques années. Alors je voudrais, de manière extrêmement rapide, ce n'est pas un travail exhaustif, je vous renverrai à un livre qui est sorti il y a un an. Je voudrais balayer ce qui s'est fait dans l'Église depuis 15 siècles, dans cette relation avec le monde musulman, et les tentatives aussi qui ont essayé d'ouvrir des brèches pour l'annonce dans le monde musulman. Pour avoir fait l'Institut pontifical d'études arabes et islamiques à Rome, nous pensions, c'était au tout début des années 70, que l'islam était un mur extrêmement haut, infranchissable, qu'on ne trouvait aucune lézarde, impossible de pénétrer, donc il fallait se rendre à l'évidence qu'il y avait là deux mondes qui coexistaient et sans espérance d'annonce ou très peu. Mais je vous donnerai un certain nombre de témoignages qui justement feront basculer, me semble-t-il, au plan historique, ce qui était alors. Aussi loin que l'on remonte, on peut mentionner la rencontre de Homs, cette ville qui a été profondément atteinte dans les événements qui se sont produits en Syrie. La rencontre de Homs en 644 entre le patriarche jacobite, un chaldéen, Jean Ier, et l'émir Saïd ibn Amir, gouverneur militaire de la place de Homs, où il ne s'agit que de l'interprétation de la Torah, la loi Magra, celle des proto-musulmans, mais pas encore d'une doctrine élaborée, ce qu'on appellera plus tard l'islam. Il n'y a pas encore d'islam, le mot islam voulant dire soumission. Ce n'est pas encore le nom d'une religion à cette période-là. On sait aujourd'hui que l'islam du 7e siècle plonge ses racines dans ses courants judéo-chrétiens du 1er siècle, comme le judéo-nazaréisme, expression du père Galais, que dès le 2e siècle, saint Irénée reconnaît comme hérétique. Cependant, l'oumma islamique se développe sous les premiers califats au Proche-Orient, et par la suite dans un environnement christianisé et bousculé par les querelles christologiques. Ça, c'est en Orient, essentiellement. En Occident, l'Église romaine se trouve d'abord face à des envahisseurs qui profitent d'un affaiblissement général à cette époque-là. Il faudra du temps pour chasser cette présence musulmane qui viendra s'installer par l'Afrique du Nord, l'Espagne, et le sultanat ou le califat omeyyade demeurera beaucoup plus longtemps que son existence en Orient, en Espagne. Ces interventions, ces incursions en Occident feront aussi beaucoup de victimes chrétiennes. Tout récemment, pour ceux qui peut-être ont le Magnificat, il se trouve que le 21 août, ont fêté un autre Bernard que celui qui avait été fêté la veille, Bernard de Clairvaux, un Bernard qui se nommait Ahmed, qui était un personnage relativement important dans cette présence musulmane dans le sud de l'Espagne. Il a voyagé, et il a rencontré des communautés chrétiennes dans le nord de l'Espagne, et il est entré dans un monastère cistercien et est devenu le frère Bernard. Et après un certain nombre d'années passées dans ce monastère, il a demandé l'autorisation de pouvoir aller porter la bonne nouvelle à sa famille dans l'Espagne du Sud. Et il se trouve qu'il a pu évangéliser sa famille, entre autres une tante qui est devenue chrétienne, et deux de ses sœurs. Lui et ses deux sœurs vont être tués par un de leurs frères qui vivait sur une autre, à Valence, me semble-t-il, en Espagne. Pour justement cette abjuration de l'islam et ce passage au Christ. En Orient, un témoin de premier plan sera Saint Jean de Damas, qui vécut entre 650 et 775 sous le califat omeyyade de Damas et à son service, comme le furent son père et son grand-père, avant que lui-même, donc Saint Jean de Damas, ne devienne moine et prêtre. Il sera l'un des premiers à désigner ce courant et, entre guillemets, son prophète, comme hérétique par rapport au christianisme, si vous voulez. Il reproche à l'islam de son temps de ne pouvoir justifier ce qu'affirme sa doctrine comme ses règles morales sans argumentation raisonnable. Mais on ne peut parler à cette époque, et dans un monde encore fortement imprégné de christianisme, d'un projet évangélisateur de l'Église par rapport au monde musulman, sinon désigner une fausse route, une voie hérétique. On peut aussi faire mention de ce dialogue, alors là je fais un bond de plusieurs siècles, mais que je rattache à, aussi un peu dans la même lignée que celle de Saint Jean de Damas et la rencontre de Homs, faire mention de ce dialogue tenu en 1391 entre l'empereur de Byzance, Manuel II, paléologue, et un persan cultivé. C'est le professeur Roger Hernandez qui cite cet événement. Et c'est Benoît XVI qui va le reprendre dans la fameuse conférence, la leçon qu'il donnera à Ratisbonne en 2006, et qui, vous savez, suscitera des réactions extrêmement vives. Benoît XVI, je pense, n'avait pas perçu l'impact de la citation de cet événement, qu'il utilisait pour notre temps pour faire comprendre autre chose. Nous allons le voir. Il ne s'agit pas davantage dans ce dialogue, ou plutôt cette polémique entre l'empereur de Byzance et ce sage persan, d'envisager une approche du monde musulman, mais de dénoncer l'opposition sur des points majeurs, foi et raison, religion et violence. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce sont des thèmes très forts. Et Benoît XVI a utilisé, disons, cet exemple historique, cet événement, à la fois pour stigmatiser l'attitude occidentale d'aujourd'hui, de cette raison qui se suffit à elle-même et qui n'a que faire de Dieu, ça c'est valable pour l'Occident, et à la fois dans, mais sans le dire, on peut le comprendre, de l'islam qui exclut la raison du champ de la foi, le monde de Dieu et le monde de l'homme n'ont pas de relation. Je lisais récemment un livre de Rémi Brague et d'un certain Soleiman, un Sénégalais professeur comme lui aux États-Unis. C'est assez marquant, autant la démarche de Rémi Brague est une démarche historique, raisonnable, qui essaye de justifier ce qui est avancé comme argument, autant on a de la peine à suivre l'argumentation de son contradicteur. C'est une véritable controverse, paisible, mais on s'aperçoit qu'on est quand même sur des domaines qui ont du mal à se rejoindre. Nous ne parlons pas toujours le même langage, malgré des sujets qui peuvent être communs. Les deux positions, en fait, s'excluent. Notons encore des tentatives comme celle, alors je remonte dans le temps, du bienheureux Pierre le Vénérable, abbé de Cluny. On est là à la fin du XIe siècle, début du XIIe siècle. Inquiet, suite à des visites qu'il a fait dans d'autres monastères, en particulier en Espagne, de la puissance du prosélytisme musulman, Pierre le Vénérable veut le combattre. En recourant au débat plutôt qu'aux invectives, d'où la somme qu'il écrira sur l'hérésie des Sarrasins. Le bienheureux, un autre, Raymond Lulle, ce sont ici des démarches plutôt intellectuelles de ces personnages que je cite très brièvement, trop brièvement, qui mériteraient de s'attarder, mais nous n'avons pas le temps de le faire. Le bienheureux Raymond Lulle, qui lui est du XIIIe, début XIVe siècle, un personnage riche et complexe, fut l'un des premiers, tout en envisageant l'évangélisation des Juifs et des musulmans, à aller sur le terrain, ce que n'a pas fait à proprement parler l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, et se pencher sur la culture musulmane. Il a même pratiqué la langue arabe et écrit aussi des traités en arabe. Une petite parenthèse qui n'est pas du même acabit que les précédentes citations, je l'ai mis parce qu'il est souvent revendiqué dans le dialogue. Saint François d'Assise, dès sa première règle, envisage de lancer ses frères dans la mission vers le monde musulman. Les événements feront qu'il y aura des changements dans la seconde règle. Surtout en cette période de l'occupation des lieux saints par les troupes musulmanes. Mais ce projet, malgré la vision prophétique du saint, restera très marginal dans l'ordre et n'influera pas fondamentalement dans la vision de l'Église universelle. Par contre, l'événement revendiqué et idéalisé que notre époque retient comme une figure exemplaire du dialogue islamo-chrétien, fut la rencontre de François à Damiette en 1219 avec le sultan El-Malik El-Kamil. Donc François avait quitté les lignes des croisés, seul, enfin accompagné d'un frère, sans armes, et rejoint les lignes musulmanes. Il a été capturé immédiatement, envoyé devant le sultan. Et nous avons dans les Fioretti un récit qui aujourd'hui est quand même assez idéalisé, mais qui montre en même temps la beauté, la candeur, La vérité évangélique qui ne s'impose pas, mais qui manifeste une force intérieure, comme c'est le cas chez François et chez bien d'autres saints de notre Église. Cet événement ne marquera pas l'avenir et la vision de l'Église par rapport au monde musulman, même si aujourd'hui il est présenté comme le type du dialogue islamo-chrétien. Mais tous ces braves dialogueurs ne se sont pas trouvés, en général, pour la plupart, dans des situations aussi critiques que le fut François. Sauf certains qu'on pourrait citer. Beaucoup plus tard, Saint Vincent de Paul, et là nous entrons dans une autre approche de ce monde qui n'est pas d'ordre intellectuel ou, comme François, une approche plus cordiale, plus essentielle, qu'on retrouvera un peu plus tard, j'en parlerai. Là, on est devant des événements qui mènent une insécurité en Méditerranée depuis de nombreuses années et que les empires chrétiens n'arrivent pas à maîtriser véritablement, même si l'Empire ottoman, finalement, a été pour une part, parce qu'il reste quand même toute la région des Balkans qui est encore occupée par l'Empire ottoman. Mais c'est surtout l'Afrique du Nord, donc ce qui explique d'ailleurs le débarquement en 1830 des armées françaises sur Alger. Saint Vincent de Paul, date de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe, la première moitié du XVIIe, et d'autres encore, d'autres saints, entre le XVIIIe et le XIXe, après Saint Jean de Matha, au XIIe siècle, donc on remonte plus haut, sont venus au secours des captifs et esclaves chrétiens dans le monde musulman ottoman, sans jamais parvenir d'ailleurs à faire cesser ces violences. Alors je voudrais justement donner un témoignage à propos, parce que c'est le même élan, Saint Jean de Matha, on est ici au XIIe siècle, bien plus tôt que Saint Vincent de Paul, mais déjà dès le XIIe siècle, plusieurs en Occident, plusieurs chrétiens ont tenté d'apporter des secours humains et spirituels aux populations raflées sur les côtes du nord de la Méditerranée et qui étaient emmenées dans les harems, dans l'esclavage, etc., en Afrique du Nord ou plus vers l'Orient. On croyait que c'était peut-être fini. Saint Jean de Matha est le fondateur des Trinitaires, des Pères Trinitaires. J'étais en Algérie, donc ça remonte à 45 ans, cela. Soudainement, son nom m'échappe. J'ai parfois des amnésies, mais son nom va revenir. Qu'un père trinitaire qui faisait partie du Conseil général et avait été élu pour le chapitre des Trinitaires, père Régimbal, un très grand charismatique, un frère que j'ai bien connu, décédé depuis, avait voulu relancer son ordre dans deux directions de forme d'esclavage moderne, malgré l'interdiction de l'esclavage, qui est remis à jour aujourd'hui pour d'autres raisons, mais qui se poursuit, et ça personne n'en parle, qui se poursuit en Afrique, et à l'époque c'était donc aussi sous le régime communiste stalinien de l'Union soviétique. Le père Régimbal voulait lancer des missions dans ces zones en Union soviétique, dans les goulags, qu'on découvrait, et auprès de ces populations, justement en Afrique en particulier, qui étaient rendues esclaves. Et il m'avait écrit pour me demander si je pouvais intervenir justement plus par rapport à l'esclavagisme pratiqué en Afrique, y compris en Libye, déjà à l'époque. Ce n'est pas aujourd'hui seulement. Mais parce qu'il était, le père Régimbal, tombé sur des rapports des Nations Unies, rapports tenus à l'ombre dans des chambres closes, et on n'en parlait jamais en Assemblée générale aux Nations Unies. Donc je m'étais préparé à cela et j'en avais parlé à mes supérieurs qui m'ont dit « Surtout pas, on ne veut pas avoir d'ennui. » Nous-mêmes, j'étais père blanc à l'époque, en Afrique sur cela. Alors je voudrais vous parler justement d'un témoignage qui a eu lieu il y a quelques années, d'un jeune trinitaire, ce qui n'a pas été possible à cette époque-là, est rendu aujourd'hui possible. Il fait partie de ces témoins, de la nuit des témoins que l'AED organise chaque année. Je crois qu'il est canadien, je ne me souviens plus très très bien, mais ce jeune père trinitaire a réussi à organiser à partir du Kenya des liaisons aériennes qui s'en vont jusqu'au Soudan, jusque dans la région du Darfour, où une sainte, aujourd'hui sainte, Joséphine Bakhita, que nous vénérons dans l'Église, a été kidnappée, séparée de sa famille, vendue sur différents marchés pour finir par être prise par un consul italien et amenée en Italie où elle servira et finira par entrer dans l'ordre des canosiens, des sœurs canosiennes. Voilà. Et ce missionnaire, ce père trinitaire, racontait comment, dans son témoignage il y a quelques années à Notre-Dame de Paris, comment était organisé donc, avec beaucoup de prudence, parce qu'ils avaient aussi des émissaires sur place qui les informaient qu'allait se tenir un marché d'esclaves à tel ou tel endroit, et particulièrement des enfants, des centaines d'enfants. Et ils en ont sauvé, inimaginable. Alors, une fois qu'ils avaient toute l'assurance de ce qui était en train de se programmer, de se passer, ils préparaient leur mission. Un vol tenu secret, ils atterrissaient sur la ville, proche de la ville où ils étaient. Ils avaient toute une armada de camions prévus pour aller acheter en moins de deux, avant que les acheteurs d'esclaves, d'enfants, qui s'en vont pour des prostitutions hein, ou autre chose, sur les marchés musulmans, et sur en particulier en Arabie Saoudite, en Libye, etc. Et il parlait de ce vol d'une centaine d'enfants qu'il a récupéré en une matinée sur un marché pour les amener ensuite par avion donc au Kenya et les former humainement, chrétiennement, et porter l'Évangile à ceux qui sont comptés pour rien. Donc il y a des initiatives de cet ordre-là aujourd'hui, et peut-être faut-il d'ailleurs qu'elles restent à ce niveau plutôt qu'une campagne ecclésiale d'évangélisation. Je voudrais maintenant aborder une autre période nous fait passer au XIXe siècle. Alors je laisse, bien sûr, puisqu'elle va en parler à Annie Laurent, de nous parler de celui qui, cette année, va être canonisé, Saint Charles de Jésus, le père de Foucault, J'ai vécu dans plusieurs endroits où il a vécu ou est passé, en Algérie en particulier. J'ai même vécu en Ermitage, mais aujourd'hui on ne peut plus y aller, parce que ce sont des zones parcourues par les terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb. Donc je laisse Annie nous évoquer cette personnalité, ce visage de saint. Mais vous permettrez que je m'arrête au cardinal Lavigery, archevêque d'Alger et fondateur des Pères Blancs, missionnaires d'Afrique. Sa vision qu'il donne aux missionnaires est proche de celle, plus tard, du père de Foucault. Il faut dire que le père de Foucault lui-même sera à l'école des Pères Blancs. Il y en a un qui essayera de le suivre. Il arrivera à mi-chemin entre Khardaya et Taman Rasset. Il va le quitter à Insallah, parce que c'est trop dur de suivre un ascète comme le frère Charles. Voilà. Sa vision est proche donc de celle de Foucault. Il faut comprendre, dit-il, l'ordre du Christ qui envoie ses disciples en mission, selon l'Évangile. Mise en œuvre dans la mission qu'il se donne est confiée par le pape Léon XIII dans le contexte de l'époque. Il est devenu légat d'Afrique, dont le siège sera à Carthage. Cette œuvre n'est pas seulement une œuvre de civilisation pour l'intégration dans ce qu'on pourrait appeler l'empire colonial français. Et surtout, il ne faut pas lire cette période-là à la lumière des idéologies de notre temps, sinon on ne comprend rien. Mais la demande du pape est toute la vision de Lavigery, c'est d'arriver à christianiser, assimiler ces populations à la foi chrétienne, à la France chrétienne, comme on le disait à l'époque. Auprès de ces missionnaires, il donnait comme modèle la communauté apostolique primitive, qui ne faisait qu'un seul cœur, selon les Actes des Apôtres, vivait et annonçait l'Évangile dans la puissance du Saint-Esprit. Il suffit de relire les Actes des Apôtres. D'où la création, c'est aussi dans le contexte sociologique, historique, aussi suite à des épidémies graves, la création de villages chrétiens, avec en particulier des orphelins et des orphelines, et qu'il a confié au Père Blanc, qui a été la base d'un embryon de société chrétienne autochtone. L'expérience ne durera pas. La plupart de ces chrétiens algériens, pour une très grande majorité, ont quitté l'Algérie au moment de l'indépendance. Et cette expérience qui avait commencé dès le 19e jusqu'en gros la Grande Guerre de 14-18 ne se poursuivra pas dans les années 20-30 et par la suite. Je rappelle justement que c'est quand vous allez dans l'oasis d'El Goléa, autour de cette église plantée en plein dans l'ergue occidentale, il m'est arrivé, quand les petites sœurs de Jésus y étaient, d'aller faire des temps de retraite et de déblayer les puits, le jardin, car les dunes avançaient et l'église elle-même était entourée. Mais autour de cette église, il y avait non seulement le cimetière avec la tombe du frère Charles, mais il y avait tout un village qui aujourd'hui est par terre. C'était construit en matériaux très légers. Il n'y a plus aucun chrétien dans ce village. Nombreux sont ceux que l'on pourrait encore citer et qui ont tenté sans illusion d'être là, là où ils se trouvaient et dans ce monde aussi parfois islamisé, comme la lampe allumée dans le désert. On peut citer aussi le père Peyriguer, qui est mort en 59, qui, comme Charles de Foucault, vit caché comme une semence d'évangile au cœur des masses afin de gagner les cœurs au Christ. J'ai découvert, en préparant cette intervention, un livre qui a déjà un an. Son titre, « Les saints catholiques face à l'islam ». Je n'ai pas eu le temps de m'y pencher, mais c'est assez intéressant, car ce sont des propos, des écrits qui sont rapportés depuis pratiquement, on a 15 siècles d'histoire, d'approche du monde musulman par l'Église à travers ces personnages que l'Église reconnaît comme saints. Et beaucoup ont été, d'une certaine manière, comme la lampe allumée dans le désert. Ça fait allusion à deux passages d'Évangile, en Jean 5, 35 et Luc 7, 24. Cependant, le XXe siècle va être marqué par l'événement du Concile Vatican II et la déclaration Nostra Aetate. Je ne vais pas en faire l'histoire, qui est assez rocambolesque d'ailleurs. En amont de cet événement du Concile, un événement historique au plan ecclésial, il y a tout un nouveau regard porté sur l'islam, dont l'un des penseurs et artisans majeurs de la première moitié du XXe siècle, artisan controversé, sera Louis Massignon. Alors non, je ne vous parlerai pas non plus de Louis Massignon, mais il influencera indirectement, mais à travers certains pères blancs que j'ai connus à cette époque-là, quand j'étais à Rome, au début des années 70, et l'Institut pontifical d'études arabes et islamiques, où j'ai été étudiant. Il influencera à travers ces organes-là et ces personnes les quelques lignes de la déclaration conciliaire au numéro 3. Au grand risque d'estimer, je cite le concile, les musulmans qui adorent le Dieu unique, fermez les guillemets. Alors bien sûr, on parle des musulmans qui adorent le Dieu unique, c'est tout au moins ce qu'ils disent eux-mêmes, mais en reconnaissant les musulmans, on reconnaît d'une certaine manière aussi l'islam qui proclame le Dieu unique, même si la distinction n'est pas faite et est purement formelle. Comme partageant avec les chrétiens la même foi d'Abraham qui s'est soumis, entre guillemets, c'est une citation du Coran, hein. Abraham n'est pas seulement Hanif, un adorateur d'idoles, un ignorant de la foi, mais il est devenu musulman, c'est-à-dire soumis à Dieu. Aujourd'hui, on le traduit par musulman. Donc, dans l'ordre de la foi au Dieu unique, et la reconnaissance de Abraham, Ibrahim, dans le Coran, c'est que cet Ibrahim est le premier musulman. Et comme les Juifs le contesteront, eh bien, par la suite, l'islam remontera jusqu'à Adam, parce qu'en fait, dans les reins d'Adam, l'humanité a été créée musulmane, selon la tradition musulmane. deux figures que j'ai particulièrement connues et bien d'autres vont marquer cette période post-conciliaire. Aujourd'hui, ils sont bien heureux. Il s'agit du frère Christian de Chergé, de Tibérine, et de Monseigneur Pierre Claverie. C'est le seul évêque qui, finalement, lorsque nos supérieurs, plutôt les évêques d'Algérie, nous ont demandé de quitter l'Algérie, pourquoi ? Parce qu'il y avait de plus en plus de catéchumènes et que l'Église d'Algérie avait très peur. Un évêque m'a dit « Vous menacez l'Église ». Waouh ! Alors j'ai dit « Père, je ne savais pas une telle autorité ». Donc nos supérieurs ont préféré que nous quittions l'Algérie pour ne pas créer donc, de remous dans l'Église. Et le seul évêque qui nous ait accepté, ça a été Monseigneur Claverie. Et il m'a demandé, écoutez, allez discerner votre appel auprès d'une nouvelle communauté en France. Et il nous a accompagnés jusqu'à la communauté à l'époque du Lion de Juda et de l'Agneau immolé à Cordes. L'un, moine trappiste, il s'agit du frère Christian, choisit la voie étroite des courants spirituels où chrétiens et musulmans en quête de Dieu échangent leurs expériences avec le risque de se retrouver dans certaines confusions, mais sans jamais abandonner le chemin de la charité. C'est une voie escarpée, une voie étroite qu'a osé prendre donc le frère Christian. Et ceci, ces rencontres se passaient dans le monastère de Tibérine. Un des arguments, je ne reviens pas sur cette histoire qui n'est pas l'histoire vraie, mais l'histoire officielle. Un des arguments utilisés de leur condamnation, c'est que leur simple présence, celle des moines, évangélise. Donc, il fallait qu'ils quittent. Et comme ils n'ont pas voulu quitter, eh bien, ils ont été enlevés. Mais c'était une autre histoire dans laquelle je n'entre pas. L'autre dominicain et évêque, il était jeune évêque quand je l'ai connu, d'Oran, homme de terrain et sensible à la réalité et aux différences entre l'Évangile et le Coran, recherche toujours la vérité et la fidélité à l'Évangile. Monseigneur Tessier, que le père Claverie avait remplacé, Monseigneur Tessier étant devenu archevêque d'Alger, dit que intellectuellement, c'était lui qui était le plus exigeant parmi les évêques. C'est une voie difficile, dit-il, donc le Monseigneur Claverie, que celle des rencontres interreligieuses souvent ambiguës. Mais le risque serait le repli sur soi de renoncer à ces rencontres, le renoncement à la rencontre d'hommes de bonne volonté. Monseigneur Claverie accompagnera, tout comme le frère Christian, discrètement, avec sagesse, ceux et celles qui auront rencontré le Christ Seigneur. Petite anecdote, quand nous avons quitté l'Algérie, une délégation de chrétiens et catéchumènes algériens est allée trouver Monseigneur Tessier pour lui dire « Et maintenant, qui va s'occuper de nous ?» L'honnêteté de Monseigneur Tessier, ça a été justement d'aller voir, particulièrement en Kabylie, c'était son diocèse, ses implantations de chrétiens. Et lui, qui n'était pas favorable à l'accueil de convertis, viendra faire des baptêmes en France. J'ai participé à certains baptêmes. c'est une alerte. À l'aube des temps nouveaux, après ce passage historique, ces 50 dernières années ont été très difficiles dans l'Église pour voir se dégager une vision d'évangélisation dans le monde musulman et par rapport à lui. De fausses théories, assez nombreuses d'ailleurs, stigmatisées par Jean-Paul II dans son encyclique « Redemptoris Missio », ont dévitalisé l'esprit missionnaire, comme celle-ci, la plus courante. Toutes les religions se valent. Alors, s'il y a plusieurs chemins du salut, on se demande qu'est-ce que vient faire Jésus dans l'histoire. Cependant, le Seigneur va susciter, à travers le renouveau charismatique dont on a fêté les 50 ans en 2017, chez plusieurs dénominations chrétiennes, je vais vous donner un petit témoignage, une ouverture surprenante et inattendue. Avant de repartir en Algérie, en 1974, le père de Montléon, qui n'était pas encore évêque, m'avait dit, Marthe Robin dit, le temps est venu d'évangéliser dans le monde musulman. Bon, je suis reparti. Et j'étais bien décidé, et c'est ce que j'avais dit à mon évêque dans une oasis, de prendre le temps nécessaire pour voir ce que le Seigneur voulait faire. J'ai prié jour et nuit, en plus du travail que j'avais à faire sur un centre de formation professionnelle, pour que le Seigneur montre justement le chemin. 4 mois après mon retour en Algérie, dans cette oasis, j'accueille le premier qui deviendra le premier catéchumène. Ces jours-ci, d'ailleurs, je recevais un mail de sa part. Il est réfugié dans un pays d'Europe suite aux menaces diverses qu'il a pu vivre. Ça va être le premier d'une série. Quand j'arrive en Algérie, je rencontre 2 moines orthodoxes du monastère d'Amba Makarios en Égypte, dont le fondateur est Matan Meskin, aujourd'hui décédé. Un moine charismatique qui avait reçu de la part du Seigneur que le temps était venu d'envoyer ses moines 2 par 2 dans différents pays d'islam. J'ai rencontré ces moines à Alger, venant de ce monastère, pour évangéliser en Algérie. Quelque temps plus tard, je rencontre un prêtre anglican qui, lui, venait de Nouvelle-Zélande et dans son église en Nouvelle-Zélande, il reçoit cette parole du Seigneur « Va en Algérie, j'ai là un peuple qui m'est préparé. » Il est arrivé et nous avons ensemble évangélisé. J'ai prêché souvent dans son église. Et il venait prêcher aussi dans notre église, dans une oasis du sud algérien. Un évêque d'Algérie dira d'ailleurs de cette oasis, c'est la Mecque de l'Algérie. Pourquoi la Mecque ? Parce que des bus entiers arrivaient du nord pour des journées de formation. Et ils étaient remplis de curieux, de catéchumènes, de prosélytes, de néophytes. Beaucoup venaient dans cette oasis. Je précise une chose, nous n'avons jamais été inquiétés par les autorités. Plusieurs ont été arrêtés en sortant de chez nous. Je suis allé nombreuses fois au commissariat, discuter avec le commissaire et faire sortir de prison ces gens qui avaient été arrêtés sans aucun motif. Et je leur rappelais simplement le 2e alinéa de la Constitution algérienne qui reconnaît la liberté de conscience. Sous quel prétexte pouvez-vous arrêter quelqu'un ? L'Esprit Saint agissait indépendamment de nos calculs, de nos projets humains, pour rejoindre les cœurs de bien des musulmans qui se trouvaient envahis d'une lumière nouvelle et d'une assurance étonnante. Ce n'est pas à cause de l'islam que ces prosélytes croient au Christ, mais Jésus, le vivant, la Vierge Marie, leur révèle la vérité qui sauve et la miséricorde insondable du Père des Lumières. Nous n'avons eu qu'à accueillir ceux qui recevaient ces révélations, ces certitudes dans leur cœur, plutôt que de les renvoyer vers la mosquée, vers l'islam, de répondre à leurs questions, d'ouvrir les portes qu'ils cherchaient à ouvrir pour mieux connaître Jésus, le Sauveur du monde. Mon premier catéchumène dont je parlais tout à l'heure, une nuit de Noël, entrant dans une église, derrière un pilier, il regardait ce qui se passait. Musulman convaincu, il reçoit de certitude dans son cœur, Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Il a relu tout le Coran, il n'a pas trouvé. Il a posé des questions aux sages musulmans, aux imams, etc. Aucune question. C'est quand il est venu, je l'ai conduit devant le tabernacle, dans cette petite oasis. J'ai ouvert le tabernacle où le corps du Christ était exposé et je lui ai dit, le Fils de Dieu, ton Sauveur, c'est lui. Il n'a pas posé de questions, il a adoré. On ne peut pas dire encore qu'aujourd'hui l'Église catholique est un projet comme Église, un projet évangélisateur envers le monde musulman. Comme par le passé, des individualités ont à cœur l'annonce du salut en Jésus-Christ aux musulmans et y travaillent avec détermination et un zèle prophétique. Je voudrais ici citer le père Humblot, qui a beaucoup travaillé en Iran et constitué des communautés chrétiennes pendant le régime de Khomeini. Saint Jean-Paul II a aidé dans Redemptoris Missio à réconcilier dialogue et annonce, c'est aussi le titre d'un document qui sortira après son encyclique, document de Rome, qui ne peuvent s'opposer. Il n'y a pas d'annonce sans dialogue. Comme le dialogue ne peut être une fin en soi, mais appelé à déboucher sur l'annonce à travers laquelle le Saint-Esprit peut rejoindre l'être profond de chaque personne humaine et lui révéler l'insondable amour du Père. Pour une telle démarche, il y a un certain nombre de conditions préliminaires. Premièrement, avoir soi-même fait une rencontre personnelle de Jésus-Christ et vivre sous la conduite du Saint-Esprit. Deuxièmement, chercher à mieux connaître les musulmans de notre entourage autant que possible, développer une réelle amitié, chercher à connaître pour comprendre ce qu'est l'islam en lui-même et comment il modèle la vie de ces personnes. Troisièmement, avancer dans le cadre de cette amitié dans une plus grande profondeur de la vérité révélée. Petit a, ne pas hésiter à relever les différences. Deuxièmement, chercher à s'appuyer sur la raison. Ça me semble important. La raison est la marque de fabrique de Dieu pour l'homme. C'est un des points qui nous rend semblables à Dieu. Troisièmement, prier personnellement, à demander ensemble à Dieu de se révéler. Quand la lumière est là, il s'agit pour le chrétien, comme pour son ami musulman, d'entrer humblement et résolument dans la présence de Dieu. Dieu connaît le chemin des cœurs, le chemin de chacun, et sa grâce accomplira l'œuvre de rédemption. Le chrétien et la communauté ecclésiale se doivent d'accompagner ceux qui se convertissent, c'est-à-dire se tournent vers Jésus, sur le chemin de la vie chrétienne, des sacrements, de la connaissance de la parole de Dieu et de l'Église. À ce niveau, il y a encore un long chemin à parcourir. Nos frères évangéliques nous ont souvent précédés, au moins sur certains de ces points. pour accueillir dans nos communautés ecclésiales et accompagner les néophytes. Cependant, des groupes et des communautés charismatiques, souvent aussi plus traditionnelles, font un travail remarquable. Ce qu'ont initié les forums, Jésus le Messie, a permis de fédérer le travail de plusieurs associations et de faire connaître auprès de plusieurs diocèses l'urgence de l'évangélisation des musulmans dans notre pays. Même si l'on rencontre encore nombre de résistances auprès d'instances ecclésiales, cependant, la poursuite de ce travail ne pourra que porter un fruit certain, abondant, qui bouleversera et renouvellera l'Église de France. Récemment, la création par notre ami Marc Fromager de l'association ISMERI, déjà citée tout à l'heure, devrait aider à ce développement des efforts produits jusqu'à présent, en les mutualisant à travers cette mission ISMERI. En guise de conclusion, vers l'avenir. L'œuvre de la grâce dépasse dans beaucoup de pays la prise de conscience de l'Église. Les conversions vont provoquer, a posteriori peut-être, je le pense, une réponse ecclésiale et pastorale à cette situation et bouleverseront profondément l'Église. Certains en ont le pressentiment et prophétiquement s'y préparent et prennent des dispositions et des moyens pour évangéliser et construire l'Église. L'avenir prometteur pour notre Église catholique est aujourd'hui dans une nouvelle effusion de l'Esprit qui lui donnera un nouvel élan évangélisateur prophétique. J'ajouterai qu'il est important de donner aux nouveaux convertis venus de l'islam une visibilité par leurs témoignages, et les forums y contribuent, qui contribuera largement à un profond renouveau de notre Église et à la sortir de ses peurs tétanisantes. Il a fallu plus de 50 ans pour intégrer le Concile Vatican II et voir le renouveau de Pentecôte être mieux accepté dans l'Église, comme le demande aujourd'hui le pape François. Pape François nous demande de prêcher le baptême dans le Saint-Esprit. Hein ? Est-ce que nous prêchons, est-ce que nous prions pour que le Saint-Esprit inonde des quartiers et que certains se lèvent dans ces quartiers ?